Anton Tchekhov, Angoisse. Ah, qui dirais-je ma tristesse? Le crépuscule. De gros flocons de neige tourbillonnent autour des réverbères qu'on vient d'allumer et lentement tombent en formant une mince couche sur les toits, le dos des chevaux, les épaules, les chapeaux. L'isvolchlik collé chez le fiacre. Yona Potapov est blanc comme un spectre. Il s'est recroquevillé autant que peut le faire un être vivant sur son siège et reste immobile. Une avalanche tomberait sur lui qui jugerait, semble-t-il, inutile de secouer la neige qui l'enveloppe. Son pauvre cheval est également blanc et immobile. Par sa rigidité et ses formes anguleuses, la raideur de ses jambes, il rappelle assez bien les chevaux en pain d'épices. Selon toute probabilité, il est plongé dans la réflexion. Un être qu'on a arraché à la charrue, au gris paysage accoutumé et jeté dans cet abîme plein de feux monstrueux, de fracas incessants et de gens qui courent, ne peut pas ne pas réfléchir. Yona et son cheval n'ont pas bougé de leur place depuis longtemps déjà. Ils ont commencé leur journée bien avant le déjeuner et n'ont pas gagné seulement un kopeck. Et voici déjà que les ténèbres s'étendent sur la ville. La pâleur des réverbères fait place à une lumière éclatante et le brouhaha des rues atteint son forte. « Cocher, à la Vivorskaya !» s'entend crier Yona. « Cocher !» Yona frissonne et à travers ses cils collés par la neige, il voit un officier enveloppé dans une pelisse à capuchon. « À la Vyborskaya !» répète l'officier. « Tu dors, quoi, à la Vyborskaya !» En signe de consentement, Yona tire ses guides d'un geste qui, du garrot de son cheval et de ses propres épaules, fait tomber des plaques de neige. L'officier monte en traîneau. Le cocher profère un vague « hu !» tend son cou comme un signe et par habitude, plutôt que par besoin, agite son fouet. Le cheval aussi tend son cou, plie ses jambes, qui ressemblent à des bâtons, et part d'un pas indécis. Bientôt, Yona entend crier « Mais où vas-tu, imbécile? Où les diables te mènent-ils? Prends donc la droite !» Ses interpellations s'adressent à lui. Elles sortent de la masse sombre qui va et vient dans la rue. « Tu sais pas conduire, et prends donc ta droite !» lui crie l'officier en colère. Le cocher d'une voiture de maître l'injurie. Un piéton qui traversait la rue et qui s'est heurté contre le museau du cheval secoue la neige de sa manche et jette un regard furieux sur Yona. Celui-ci est sur son siège comme sur des aiguilles. Il agite les coudes et tourne les yeux d'un air ahuri, comme s'il ne comprenait pas où il est et pourquoi il y est. « Que tout le monde est lâche !» dit l'officier qui veut faire de l'esprit. « Tout le monde veut absolument se heurter contre toi ou tomber sous ton cheval. Mais c'est un véritable complot !» Yona se retourne, regarde le voyageur et remue les lèvres. Il veut évidemment dire quelque chose, mais il ne sort de sa gorge qu'un sifflement. « Comment ?» demande l'officier. Yona tâche de sourire et, après un effort, arrive à dire d'une voix rauque « Cette semaine, monsieur, mon fils est mort. »« Oui, de quoi ?» Yona se retourne tout à fait vers son voyageur et dit « Qui sait ? La fièvre, probablement. Il est resté 3 jours à l'hôpital et il est mort. La volonté de Dieu. « Tourne donc, maudit » entend-on dans la rue. « T'as les yeux crevés, quoi, espèce de vieux chien !»« Va un peu plus vite, » dit le voyageur, « sans quoi nous n'arriverons pas avant le demain. Allez, plus vite !» Le cocher tend de nouveau son cou, se soulève et agite son fouet avec une grâce lourde. Plusieurs fois encore, il retourne la tête vers son voyageur, mais celui-ci a fermé les yeux et ne semble pas d'humeur à écouter. L'ayant déposé à la Viborskaya, Iona arrête son cheval devant un marchand de vin, se recroqueville et demeure immobile de nouveau. De nouveau, la neige le peint en blanc, lui et son cheval. Plusieurs heures se passent. Trois jeunes hommes, deux grands et minces et le troisième petit et bossu, passent sur le trottoir en faisant du bruit avec leurs galoches. « Cocher, au pont de la police !» glapit le bossu. « Nous sommes trois, allez, 20 kopecks !» Iona tire les guides et fait avec les lèvres le petit bruit qui lui tient lieu de « hu ». 20 kopecks, c'est un prix dérisoire pour cette distance. Mais cela importe peu à Iona. 1 rouble ou 5 kopecks, oh, cela lui est égal maintenant, pourvu qu'il ait des voyageurs. Les jeunes gens, en se poussant et en s'injuriant, veulent monter tous les trois à la fois en traîneau. Une question s'élève, puisqu'il n'y a que 2 places assises, qui restera debout? Après force jurose et bourrade, on décide que ce sera le bossu, à cause de sa petite taille. « Allons, va et vite !» crie le bossu, en respirant dans la nuque d'Iona. « Mais quel bon œil tu as là, ami ! Il n'y en a pas de plus vilain à Pétersbourg !»« Hi, hi, hi !» rit Iona. « On a ce qu'on peut !» Ben allons, allons, ben on a ce qu'on peut. Plus vite que cela, vas-tu nous conduire comme ça tout le chemin? Hein, veux-tu recevoir sur le coup? La tête m'éclate, dit l'un des grands jeunes hommes. Hier, chez les Doukmassov, nous avons bu, Vaska et moi, 4 bouteilles de cognac. Ben, je comprends guère pourquoi tu mens de la sorte, dit l'autre. Tu mens comme une brute. Mais que Dieu me punisse si ce n'est pas vrai. C'est aussi vrai qu'un poutous. Hi, 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 rit Iona. De gais messieurs. Pouf, que le diable t'emporte, s'indigne le bossu. Mais veux-tu courir, vieux choléra, ou non? Est-ce qu'on marche ainsi? Mais frappe-le donc, ton cheval. Fouette-le, allez, hu, diable, hu, frappe-le bien. Iona sent derrière lui le corps qui tourne et la voix qui vibre du bossu. Il entend les invectives qu'on lui adresse. Il voit des gens et peu à peu, la sensation de la solitude commence à l'abandonner. Le bossu l'injure tant qu'il s'étrangle enfin avec un juron archi-compliqué et se met à tousser. Les grands entament une conversation au sujet d'une certaine Nadejda Pietrovna. Iona se retourne pour les regarder. Dans un moment de court silence, il les regarde encore et murmure. « Cette semaine, vous savez, mon fils est mort. Nous mourrons tous !» soupire le bossu en essuyant ses lèvres que la quinte a mouillées. « Va vite, cependant, allez vite !» « Messieurs, décidément, je n'en puis plus, mais quand est-ce que nous arriverons avec lui ?»« Donne-lui donc un petit encouragement, sur le coup. »« Vieux choléra, toi tant, je vais te faire enfler le cou à coups de poing, entends-tu »« Si l'on vous laisse faire, il vaudrait mieux aller à pied, hein, entends-tu »« Ou tu moques-tu peut-être de ce qu'on te dit ?» Et Iona entend, plutôt qu'il ne les sent, des coups de poing dans sa nuque. « Hi, hi !» rit-il. « De gai, messieurs, que Dieu leur donne bonne santé. »« Cocher, tu es marié ?» lui demande un des deux grands. « Moi, hi, hi ! De gai, messieurs, maintenant je n'ai plus qu'une femme, la terre humide. Hi, ho, ho ! C'est-à-dire la tombe. Mon fils est mort, voyez-vous, et moi je vis. » Chose bizarre, la mort s'est trompée de porte. Au lieu de frapper à la mienne, elle est venue chercher mon fils. Et Yona se retourne pour raconter comment son fils est mort. Mais ici, le bossu pousse un soupir de soulagement et déclare que Dieu merci, on est enfin arrivé. Après avoir reçu ses 20 kopecks, Yona suit longtemps du regard les débauchés qui disparaissent dans l'entrée sombre d'une maison. De nouveau, il est seul et de nouveau, le calme se fait en lui. Mais bientôt, l'angoisse revient l'oppresser avec plus de force. Ses yeux se promènent avec inquiétude et douleur sur la foule qui passe et repasse. Parmi ces milliers de gens, n'en trouva-t-il pas un seul qui l'écouterait? Mais la foule se démène sans l'apercevoir, lui et sa douleur, une douleur sans bornes. Si la poitrine d'Iona éclatait et que sa douleur s'en répandit, elle submergerait le monde, semble-t-il. Cependant, on ne la voit guère. Elle a dû se concentrer dans un creux si profond qu'il serait impossible de l'apercevoir même le jour avec une lanterne. Iona voit un concierge, un sac à la main, et se décide à lui adresser la parole. « Mon ami, lui dit-il, quelle heure est-il? Mais il est 9 heures passées, mais qu'est-ce que tu as resté ici? Marche donc !» Iona s'éloigne de quelques pas, se recroqueville et s'abandonne à son angoisse. Maintenant, il juge inutile de s'adresser aux hommes. Mais 5 minutes ne se sont pas encore écoulées qu'il se raidit, secoue la tête, comme s'il venait de ressentir une douleur aiguë et tire les guides. Il n'en peut plus. « À la maison, pense-t-il, à la maison !» Et son cheval, comme s'il l'avait compris, se met à courir au petit trot. 1 heure et demie environ après, Yona est assis près d'un grand four sale. Sur le four, sur le sol, sur les bancs, des hommes ronflent. L'atmosphère est lourde et étouffante. Yona regarde les dormeurs, se gratte et regrette d'être rentré si tôt. « N'ai même pas gagné l'avoine de mon cheval, » pense-t-il. De là, cette angoisse qui m'étreint. L'homme qui sait son métier, qui mange lui-même à sa faim et qui nourrit son cheval, est toujours calme. Dans un des coins, un jeune cocher se lève, tout saute et tend le bras vers le seau à eau. « Tu as soif ?» lui demande Yona. « Oui, j'ai soif. Eh bien, ta santé. Tu sais, mon fils est mort. Tu n'as pas entendu ? Cette semaine à l'hôpital, oh, une triste histoire !» Yona regarde quel effet ces paroles ont produit, mais il ne voit rien. Le jeune cocher s'est couvert la tête et il dort déjà. Le vieux soupire et se gratte. De même que le jeune cocher avait envie de boire, il a lui envie de parler. Il y aura bientôt 8 jours que son fils est mort. Il n'en a encore parlé avec personne comme il le voudrait. Il voudrait compter la chose en détail. Il voudrait dire comment son fils est tombé malade, comme il a souffert, ce qu'il a dit avant de mourir et comment il a trépassé. Il voudrait décrire l'enterrement et sa visite à l'hôpital pour chercher les effets du défunt. Au village est restée sa fille, Anicia. Il voudrait en parler un peu aussi. Il aurait tant de choses à dire. Son auditeur devrait pousser des « ah » et des « oh », soupirer et exprimer de la compassion. Les meilleurs auditeurs sont les femmes. Elles sont forçantes, il est vrai, mais elles pleurent au second mot. « Il faut aller jeter un coup d'œil sur le cheval, » pense Yona. « J'aurai encore assez de temps pour dormir. » Il s'habille et se rend à l'écurie. Il pense à l'avoine, au foin, au temps qu'il fait. Lorsqu'il est seul, la pensée de son fils lui est insupportable. Il voudrait en causer avec quelqu'un, mais y penser tout seul, se l'imaginer, ce lui est extrêmement pénible. « Tu marches ? » demande Yona à son cheval, en voyant ses yeux brillants. « Eh bien, marche, 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 mon vieux. Nous n'avons pas gagné de ravoine, il faut donc manger du foin. « Oui, oh, je deviens trop vieux pour un cocher. C'est mon fils qui devrait l'être, non pas moi. C'était celui-là, un vrai cocher. Oh, s'il vivait encore. » Yona se tait quelque temps et puis il continue. « Oui, ma petite jument, Kouzma Ionitch n'est plus. Il nous a ordonné de vivre vieux. Il est mort sans raison, comme ça. Disons, par exemple, que tu as un petit poulain dont tu es la mère, et tout à coup, disons, ce poulain meurt. Tu le regretterais, n'est-ce pas ? » Le cheval mange, écoute et respire sur les mains de son maître. Yona donne un libre cours à sa peine et raconte tout à sa jument.